La plupart des événements qu'il nous reste à raconter sont demeurés obscurs. Ils figureraient dans les recueils d'énigmes historiques s'ils avaient plus d'importance. Mais aucun ne méritait cet honneur. Aucun n'a influé sur la marche des affaires en France, comme l'avait fait 30 ans plus tôt le lien qui soumettait Anne d'Autriche à Mazarin. Aucun non plus ne possède l'attrait romanesque qu'offrait la légende du masque de fer avant d'être éclairci. En revanche, ce sont des choses qui nous rendent l'ancienne société française très présente et très vivante. Et la part de mystère qu'elles contiennent n'est pas pour en diminuer l'intérêt. Il n'y a que dans les romans que tout finit toujours par s'expliquer. Le plus obscur peut-être de ces événements est le mariage de la grande mademoiselle avec le petit homme, comme elle-même appelait Lauzun dans l'intimité. Les contemporains y ont cru à peu près unanimement, sans pouvoir ni s'entendre sur l'époque, à 10 ans près, ni bien moins encore désigner le lieu et les témoins, ainsi qu'ils le faisaient pour Louis XIV et Madame de Maintenon. On n'en connaît jusqu'ici aucune preuve écrite. Mademoiselle avait l'habitude de brûler ses lettres, et elle n'avait pas fait d'exception pour celle de Lauzun. Elle en dit son regret dans ses mémoires. Nous sommes donc réduits aux preuves morales. Il est vrai qu'elles sont très fortes en faveur du mariage. Il est vrai aussi qu'elles ne sont pas toujours sans réplique. L'idée d'un lien secret était venue à bien des gens après la rupture officielle. L'un des correspondants de Bussy-Rabutin lui écrivait le 17 février 1671.
« Mademoiselle pleure encore quelquefois quand elle y pense. Souvent, elle rit quand elle n'y pense pas. Son amant continue de la voir et personne ne s'oppose. Je ne sais ce qui en arrivera. »
3 semaines après, Madame de Scudéry faisait allusion au même bruit. À Paris, ce 6 mars 1671.
« Mademoiselle parle toujours à Monsieur de Lauzun. Leurs conversations commencent et finissent par des larmes. Cependant, je vous le dis, cela n'aboutira à rien. »
Bussy était de ceux qui croyaient que cela aboutirait à quelque chose. Il répondit le 13 à Madame de Scudéry.
« Je crois que l'affaire de Mademoiselle et Lauzun aura un succès heureux, non pas de la manière qu'il l'espérait d'abord, mais d'une autre, plus secrète, qui se fera du consentement du roi. »
Mademoiselle accepterait-elle cette autre manière? Il était permis d'en douter. Les mariages de conscience, si à la mode au XVIIe siècle, créaient des situations très fausses et assez humiliante, à qui n'était pas un Louis XIV n'ayant de compte à rendre à personne et maître de laisser transpirer la vérité. Les mariages secrets du reste des mortels devaient rester vraiment secrets, faute de quoi ils auraient une partie des effets que l'on avait voulu éviter, de sorte que deux époux ne se voyaient toute leur vie qu'en bonne fortune, ce qui n'était pas du goût de tout le monde, non plus que les soupçons et commentaires auxquels on n'échappait point, et la dépendance où l'on tombait vis-à-vis des serviteurs. Segret ne voulut jamais croire que Mademoiselle eût épousé Lauzun, et l'une de ses raisons était qu'elle avait « Chasser Madelon,
sa femme de chambre, ce qu'elle n'aurait pas fait si Madelon avait eu de quoi bavarder. Segret aurait pu ajouter que sa maîtresse s'était toujours exprimée sévèrement sur les équivoques créés par les mariages de conscience. Mais tout change. Ainsi qu'elle l'avait dit au roi dans leur grande conversation entre les deux portes. Mademoiselle encourageait Lauzun à apprendre vis-à-vis d'elle des airs de maître. Il la dirigeait et elle lui était passionnément soumise.
Il me gardait tant que je n'osais plus pleurer et le pouvoir qu'il avait sur moi retenait mes larmes. C'est en avoir beaucoup, car on n'en est pas maître soi-même.
Ce fut d'accord avec lui qu'elle fit maison nette de ceux de ces gens qui avaient blâmé leur premier projet. Monsieur de Montausier et Madame de Sévigné essayèrent inutilement de sauver Segret, qui était de leurs amis.
« Elle n'est pas traitable !»
écrivait Madame de Sévigné.
« Sur ce qui touche à 900 lieues près de la vue d'un certain cap. »
Ce fut Lauzun qui désigna le successeur de Guyoire, l'intendant, et qui soumit ce choix au roi. Il y avait de quoi donner à penser. Lauzun en avertissait Mademoiselle.
« On dira dans le monde que je veux faire le maître, que je veux tout gouverner chez vous. »
Elle répondait,
« Plût à Dieu que vous le voulussiez. C'est ce que je souhaite, avec passion. »
Elle lui avait confirmé par de nouveaux actes les folles donations du contrat et le roi rivalisait de générosité avec sa cousine. À en croire les courtisans, Louis XIV avait promis à Lauzun qu'il ne perdait rien à ne pas épouser Mademoiselle. En tout cas, il le comblait. C'était des entrées de faveur. C'était le gouvernement du Berry. C'était 50 000 livres pour payer ses dettes. Et il y avait apparence que sa fortune ne s'arrêtait pas en si beau chemin. Louvois s'en inquiétait et amassait des trésors de haine contre le favori. L'hiver se passa de la sorte. Au printemps, la cour retourna en Flandre. Pendant un séjour à Dunkerque, on parla si haut de l'intimité du nain avec la grande mademoiselle que cette princesse l'apprit.
On fit courir le bruit que nous étions mariés avant que de partir de Paris. Et la Gazette de Hollande le dit. On me l'apporta pour la montrer. Il riait. Je ne dis rien. Je la lui envoyai.
Deux pages plus loin, une autre conversation prouve que la nouvelle était tout au moins prématurée. Mais le public avait le droit de s'y tromper. Tant les façons d'être de Mademoiselle avec Lauzun étaient devenues tendres et familières. Il fut question, en ce même printemps, d'un voyage à Fontainebleau.
Je disais à Monsieur de Lauzun, ayez soin de mettre une calotte. Quand vous y serez, le serin en est mortel pour les dents. Vous qui êtes sujet à avoir mal aux yeux, à être enrhumé, cet air fait tomber les cheveux. Il me dit,
pour tes dents, j'en ai à conserver. Je crains le rhume, car les yeux rouges dont vous me faites la guerre, c'est à force de veiller que j'y ai mal quelquefois. Pour mes cheveux, j'en ai si peu que je n'ai rien à ménager. »
Elle lui prêchait la propreté.
« Quand on vous aura vu tout crasseux,
on aura trouvé que j'avais un méchant goût. Pour mon honneur, vous devriez vous ajuster. »
Il riait. Ou bien elle le grondait par jalousie parce qu'il s'échappait pour aller on ne sait où, et alors il s'enjolait.
Dès qu'il voyait que j'avais envie de le gronder, il avait des manières à me ramener et à me mettre de bonne humeur, qu'il n'en eût jamais de pareil.
Tout cela ressemblait assez à une lune de miel et les mémoires de Mademoiselle pour l'automne de cette même année renferment un passage qui en est presque un aveu. Les courtisans s'émerveillaient de l'excès d'insolence d'une part et de l'excès de patience de l'autre, car Madame de Montespan endurait ses outrages sans souffler mot. On prétendait qu'elle avait été autrefois sa maîtresse et qu'il la tenait par là. C'est à cette rude pénitence de la toute-puissante favorite que Madame Scarron faisait allusion lorsqu'elle raisonnait dans un souper compté par Madame de Sévigné sur les horribles agitations d'un pays qu'elle connaissait bien. Les rages continuelles du petit Lauzun, le noir chagrin ou les tristes ennuis des dames de Saint-Germain. Et peut-être que la plus enviée n'en est pas toujours exempte. Madame Scarron avait vu les horribles agitations de très près, car c'était encore elle qui était intervenu contre Lauzun. C'était sur ces représentations que Madame de Montespan avait fini par dire au roi qu'elle ne se croyait pas en sûreté de sa vie, tant qu'il serait en liberté. Lauzun fut arrêté à Saint-Germain dans sa chambre le soir du 25 novembre 1671. L'avant-veille, Mademoiselle était partie pour Paris en lui disant
« Je ne sais ce que j'ai. Je suis dans un chagrin si horrible que je ne puis durer ici. »
Elle pleura tout du long de la route. Elle savait très bien d'où lui venait son chagrin. On avait demandé à l'un de leurs amis
« Si Monsieur de Lauzun était arrêté ?»
Et cette question lui avait déplu. Hasard ou précaution, la nouvelle de l'arrestation mit 24 heures à arriver au Luxembourg. Lauzun était déjà sur la route de Pignerolles. En avant de lui courait Monsieur de Nalot, l'homme de confiance expédié par Louvois, certainement avec une joie féroce, pour porter les instructions de son maître, au sieur de Saint-Mars. Gouverneur du donjon de Pignerolles et chargé du soin des prisonniers qui s'y trouvaient enfermés. Saint-Mars gardait Fouquet depuis 7 ans avec une telle fidélité aux ordres reçus que Louvois ne doutait pas d'en être obéi, aveuglément, pour tout ce qui lui plairait de commander à l'égard de Lauzun. Ses instructions portaient de l'enfermer avec un valet, sans jamais les laisser sortir, ni communiquer avec âme au monde. Saint-Mars répondit à Pignerolles ce 9 décembre 1671.
« Monseigneur, Monsieur de Nalot est arrivé ici le 5 du courant, où il m'a remis en main la lettre et l'instruction qu'il vous a plu avoir la bonté de m'envoyer par lui. Il vous pourra dire la manière dont je me comporte pour faire préparer en diligence l'appartement de Monsieur de Lauzun. Il vous dira, Monseigneur, que je le logerai dans les deux chambres basses qui sont au-dessous de M. Fouquet. Ce sont celles où vont vite les fenêtres grillées en dedans de grosses barres de fer. De la manière que j'ai ordonné de faire en ce lieu-là, je vous réponds sur ma vie de la sûreté de la personne de M. de Lauzun, comme aussi de toutes les nouvelles qu'il pourrait donner ou recevoir. Je vous engage, mon honneur, mon seigneur, que vous n'entendrez jamais parler de lui tant qu'il sera sous ma garde. Il sera comme s'il était in pace. Le lieu que je lui fais préparer est tourné de manière que je ne puisse y faire de trou pour le voir dans ses appartements. Je prétends savoir tout ce qu'il fera et dira, jusqu'à la moindre chose, par le moyen d'un valet que je lui donnerai, ainsi que vous me l'ordonnez. J'en ai trouvé un, avec beaucoup de peine, et ce sont ces sortes de gens-là qui m'en donnent plus que tout le reste, parce qu'ils ne veulent point demeurer toute leur vie en prison. Vous m'ordonnez de ne faire dire la messe à M. de Lauzun que les fêtes et dimanches. Je m'attacherai fort régulièrement, au pied de la lettre. Le confesseur de M. Fouquet le confessera à Pâques et pas davantage, quoi qu'il puisse arriver. Je n'ai d'autre pensée qu'à bien exécuter l'honneur de vos ordres. Je m'y attacherai toute ma vie, avec tant de zèle, de passion et de fidélité que j'espère que vous serez content de mes petits services. »
Toutes les autorités de la citadelle avaient écrit à Louvois après l'arrivée de son agent, tant ses instructions avaient fait l'impression sur le personnel. On se disait qu'il fallait que ce monsieur de Lauzun fut un bien grand coupable et un homme bien dangereux pour nécessiter de pareilles précautions. Chacun tenant à montrer son zèle, Louis XIV fut abondamment renseigné sur le cachot destiné à son ancien favori. Louvois lui en montra le plan qu'il venait de recevoir. C'était une basse voûte formant deux pièces et donnant sur une cour déserte où personne ne passait jamais. Les fenêtres, obscurcies par leurs barreaux de fer et par des branches d'arbres, étaient munies de ces espèces de hottes, usitées dans les prisons, qui empêchent de voir ou d'être vu. Les bruits du dehors, même ceux des corps de garde et des cuisines, n'arrivaient point dans ce lieu reculé le plus sourd de toute la citadelle, à cause de l'énorme épaisseur des murailles et des voûtes.
« Jamais, disait l'une des lettres, Monsieur Fouquet ne pourra savoir s'il a un compagnon ou non. »
Les correspondants de Louvois insistaient unanimement sur l'impossibilité de se sauver de là. Le roi leur fit répondre d'ajouter encore
« Une grille en fer, scellée en dedans de la chambre, à l'embrasure des fenêtres, et une vissante à la cheminée,
pour empêcher M. de Lauzun de
parler à M. Fouquet par la même cheminée. »
Quand cette lettre partit de Saint-Germain, Lauzun était déjà sous clé à Pignerolles. Il s'était montré fort triste et fort abattu pendant le voyage. Son affliction se changea en fureur à la vue du cachot qui l'attendait. Saint-Mars écrivit à Louvois, 22 décembre 1671.
Monseigneur, mon prisonnier est dans un si profond chagrin que je ne vous le puis figurer aussi grand qu'il est. Il m'a dit que je lui avais fait faire un logement pour in secula seculorum.
Lauzun lui déclarait qu'il deviendrait fou et son agitation semblait lui donner raison. 30 décembre.
Je ne crois pas, monseigneur. Vous mandez jamais rien de sa quiétude. Il est dans une affliction si grande qu'il ne fait autre chose que de soupirer et de battre des pieds. Il m'a demandé une fois si je savais le sujet de sa détention. Je lui ai dit que je n'apprends jamais de nouvelles, de crainte, d'en dire à personne.
Lauzun devait deviner pourquoi il avait été arrêté, mais personne ne le lui avait dit. On lui avait refusé à Saint-Germain toute explication et d'être mis dans un pareil cachot, au secret le plus rigoureux, sans même lui en donner la raison. Cela lui paraissait criant d'injustice et d'arbitraire. 5 mars commençait à craindre une résolution désespérée. 12 janvier 1672.
Monseigneur, il est si extraordinairement chagrin que j'ai peur qu'il ne perde l'esprit ou qu'il ne se désespère. Il m'en a menacé plusieurs fois. Comme je ne m'arrête pas à ces sortes de manières de parler, il m'a fait reproche que j'étais devenu dur et impitoyable par la longueur de temps que je garde des prisonniers, mais qu'il n'était point condamné et que tout ce qui faisait son mal extrême était qu'il ne savait point son péché.
Il n'était pas un condamné. Ce fut son refrain pendant 10 ans. Fouquet, son voisin de prison, était un condamné. Fouquet avait eu des juges, indépendants ou non. Il avait su de quoi on l'accusait et l'on avait écouté sa défense. Lauzun était dans sa basse voûte par le bon plaisir du roi, sans avoir été admis à se justifier, et cela le révoltait.